Les persécutions des premiers Quakers en Amérique, suite, souvenez-vous des paroles que je vous ai dites, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, s'ils ont gardé ma parole, mis en pratique mes enseignements, ils garderont aussi la vôtre. Jean 15, 20 chapitres vit le récit des persécutions, atteste le faux salut des persécuteurs, de telles persécutions étant prédites dans l'Apocalypse par la prostituée de Babylone, ivre du sang des saints. Voir Babylone et l'apostasie pour plus. France Dunfray Norton à New Haven, il se rend à Plymouth, accompagné de John Roux, leurs souffrances dans ce lieu, William Brand, Mary Dee, Mary Weatherhead, John Copland et John Roux visitent New Haven, William l'aidera passe au Connecticut. Il y est banni et retourne à Rhode Island, Sarah Gibbon et Dorsey Wall se rendent au Massachusetts. Leur voyage périlleux, elles arrivent à Boston, sont emprisonnées et fouettées, elles vont à Providence et au Connecticut. Sont bannies du Connecticut, Robert Hodgson visite la Nouvelle. Un Frey Norton, que nous avons mentionné comme prisonnier à New Haven, au Connecticut, dans la dernière partie de 1657, fut traduit devant le tribunal au début du premier mois suivant. Lors de son interrogatoire, il ne fut accusé d'aucune infraction au droit civil, mais ses persécuteurs estimèrent qu'ils avaient des griefs plus graves à faire valoir contre lui sur le plan doctrinal, et un prêtre entreprit de prouver au tribunal qu'il était coupable d'hérésie. Comme un frais tentait de répondre à ces allégations, une grosse clé en fer fut placée sur sa bouche et attachée de manière à l'empêcher de parler. On lui dit que lorsque le prêtre aurait terminé, il pourrait répondre aux accusations, mais avant qu'il n'ait l'occasion de répliquer, le prêtre s'était enfui. Le procès dura 2 jours, et après un long et frivole examen, avec de nombreuses tentatives des autorités pour piéger le prisonnier dans ses paroles, il fut réincarcéré. 10 jours plus tard, il fut de nouveau traduit devant le tribunal, où il reçut une sentence devant laquelle l'humanité recule. Il devait d'abord être fouetté, puis marqué au fer brûlant sur la main de la lettre H, pour signifier qu'il était un hérétique condamné, être condamné à une amende de 10 livres pour les frais et dépens du procès, et enfin être banni de la colonie de New Haven, sous la peine la plus extrême que la loi pouvait infliger. Le tribunal décida qu'aucun temps ne devait être perdu pour soumettre cette victime de leur déplaisir au cruel décret. Ainsi, dans l'après-midi du même jour, au milieu d'une grande foule rassemblée au son du tambour, la flagellation et la marque furent exécutées. Le premier acte consista à le placer au pilori à la vue de tout le peuple, et après l'avoir dépouillé jusqu'à la taille, le dos tourné au magistrat, le fouet commença. 36 cruelles lanières furent infligées, et probablement davantage auraient été données, si l'inhumaine exhibition n'avait pas dégoûté les spectateurs. « Veulent-ils tuer cet homme ?» fut l'expression de mécontentement qui s'échappa de la foule. Un frais, toutefois, qui était remarquablement délivré du sentiment de la douleur, observa que son corps était comme s'il avait été couvert de baume. Après l'exécution de cette partie de la sentence, les officiers tournèrent le visage du souffrant vers les magistrats, et lui ayant attaché la main droite au pilori, y brûlèrent la lettre H. « Plus profondément, dit John Roux, que je n'ai jamais vu une empreinte sur aucune créature vivante. La présence de celui qui soutient ses enfants dévoués sous toute variété d'épreuves était cependant tout près de cet homme fidèle, et lorsqu'on le détacha du pilori, le Seigneur lui ouvrit la bouche dans la prière, et il éleva sa voix vers le ciel, d'où venait son secours, à l'étonnement de tous. Il put se réjouir et rendre grâce pour la paix, l'amour et la joie dont son cœur abondait. On lui dit alors qu'il pourrait recouvrer sa liberté en payant l'amende et les frais de prison. Il répondit que si la somme de 2 pence seulement pouvait lui obtenir sa libération, il ne pouvait la payer, ni consentir à ce que d'autres le fassent pour lui. Les autorités, manifestement honteuses de leur cruelle procédure, lui dirent alors que s'il promettait seulement de payer plus tard, il serait relâché, mais il refusa aussi cette offre. Un colon hollandais, touché de compassion pour le souffrant, s'avança alors et offrit 20 nobles pour obtenir sa libération. Son esprit intérieur remarqua le colon bienveillant, le lui a fait faire. Un Frey Norton fut alors banni de la colonie de New Haven, d'où il se rendit à Rhode Island. Ces souffrances de un Frey Norton constituent le premier exemple de la persécution des amis au Connecticut. Après être resté plusieurs semaines dans la province de Rhode Island, un Frey Norton crut qu'il lui était demandé d'assister à la prochaine cour générale de la colonie de Plymouth, et John Roux, récemment revenu d'une visite dans certaines parties du Connecticut, estima de son devoir de l'accompagner. L'objet immédiat de la visite de un Frey Norton à Plymouth était de plaider auprès des autorités de cette colonie au sujet de leurs actes intolérants et cruels envers les amis. Et afin que le gouverneur connaisse l'objet de sa venue, il lui envoya au préalable un résumé des souffrances que ses compagnons de profession avaient endurées dans cette implantation, accompagné de quelques remarques. « Celle-ci, observe-t-il, est ce qui pourra encore être rappelé à ma mémoire par le Seigneur, sont les justes motifs sur lesquels mon intention et mon désir sont de paraître devant votre cour et votre pays, et tous ceux qui peuvent s'y trouver concernés, si Dieu le permet. Le 1er du 4e mois 1658, les deux amis arrivèrent à Plymouth, où ils furent aussitôt arrêtés et emprisonnés, et deux jours après, ils furent traduits devant le tribunal et interrogés sur leurs motifs de venue. Un frère les renvoya aux documents qu'il avait fait parvenir. Le gouverneur, cependant, peu disposé à admettre qu'il l'avait reçu, proféra plusieurs mensonges et accusations sans fondement, ce qui suscita une réprimande de Humphrey Norton. John Roux, estimant qu'en tant qu'Anglais libre de naissance, il avait un droit incontestable de visiter toute partie des dominions britanniques, nia l'autorité de la loi par laquelle il cherchait à exclure les amis du territoire. L'examen se termina toutefois par leur réincarcération. Les registres de Plymouth les accusent d'avoir agi de manière turbulente à cette occasion. La réprimande de Humphrey Norton au gouverneur pour ses mensonges et la défense de John Roux de ses droits de sujet britannique semblent avoir constitué le seul fondement de l'accusation. Deux jours après le renvoi des deux amis, ils furent de nouveau traduits devant le tribunal, dans le but, semble-t-il, d'être accusés d'hérésie par un individu soucieux de soutenir l'orthodoxie puritaine. Les prisonniers, assurés de pouvoir réfuter cette accusation odieuse, demandèrent l'occasion de le faire publiquement, mais les magistrats, craignant l'issue d'une dispute, les renvoyèrent une seconde fois, en priant leur accusateur, avec quelques autres, de leur rendre visite en prison afin d'entendre ce qu'ils avaient à dire en réponse à l'accusation. L'entretien ayant pris fin, il fut rapporté au tribunal qu'il y avait fort peu de différence entre ce que Winter affirmait et ce que le dit Humphrey Norton reconnaissait, d'où il semble que leur accusateur ne parvint pas à soutenir son allégation. Une fois de nouveau amené au tribunal, Humphrey Norton demanda qu'il lui soit permis de lire le document qu'il avait écrit pour expliquer l'objet de sa visite dans la colonie. Le gouverneur, cependant, qui feignait encore d'en ignorer le contenu, non seulement refusa la demande, mais usa de nouveau d'un langage injurieux, qualifiant les prisonniers de gaillards déréglés, de papistes, de jésuites et de bien d'autres épithètes opprobres. Humphrey, indigné par ces expressions malveillantes, répondit « Je ne fais pas plus de cas de votre langue criarde que de la poussière sous mes pieds. » Les dirigeants de Plymouth, déçus de ne pas disposer de preuves suffisantes pour condamner les deux amis pour hérésie, et déterminés à ce qu'ils souffrent pour avoir ainsi osé entrer dans les limites de la colonie, décidèrent de leur proposer le serment d'allégeance, un piège dans lequel ils savaient bien que ces hommes consciencieux seraient pris. À leur refus de prêter serment, les magistrats ordonnèrent aussitôt qu'ils soient fouettés, Humphrey Norton fut condamné à recevoir 23 coups, et John Roux 15. En quittant le tribunal, plusieurs habitants désirèrent exprimer la sympathie qu'ils éprouvaient pour les étrangers. Ils leur serrèrent la main à leur passage, mais les dirigeants envieux, troublés par ces marques de bonté chrétienne, ordonnèrent que trois d'entre eux soient mis au pilori pour cet acte. Les prisonniers, en arrivant au lieu du châtiment, sentirent leurs esprits portés à la prière et au milieu de la multitude assemblée, ils supplièrent le Très-Haut. Le fouet, bien qu'exécuté avec une grande sévérité, fut supporté par les souffrants avec une patience et une douceur remarquables. Informé à sa conclusion que, moyennant le paiement des frais, ils pourraient recouvrer leur liberté, ils répondirent que si quelque chose était dû, on pouvait s'adresser aux gardiens de cette bourse qui avait été remplie par des vols commis sur des innocents. Un ministre puritain, qui avait été banni de Virginie pour non-conformité à l'épiscopat, fut entendu dire, au sujet de cette circonstance émouvante, « Sur ma conscience, vous êtes des hommes à l'âme noble. Je n'ai pu me résoudre à rester au tribunal pour entendre et voir la procédure, ni à venir au pilori pour voir vos souffrances. » Cette persécution, remarque John Roux, se révéla être un grand avantage pour la cause de la vérité et alors au magistrat des avantages, car les amis nous reconnurent ouvertement en cela avec beaucoup d'audace, et cela affecta profondément beaucoup de gens. Après encore quelques jours d'emprisonnement, ils furent relâchés et retournèrent à Rhode Island. Les souffrances de Humphrey Norton à New Haven et son bannissement ne dissuadèrent pas d'autres ouvriers de l'Évangile de visiter cette implantation. William Brand, Mary Dier et Mary Weatherhead s'y rendirent depuis Rhode Island pour rendre un témoignage public contre la cruauté et le fanatisme des dirigeants, et arrivèrent au deuxième mois 1658, mais ils furent aussitôt arrêtés et ramenés de force à Rhode Island. Au cours du même mois, John Roux et John Copland, poussés par un sentiment de devoir religieux, visitèrent la colonie du Connecticut. Ils se rendirent d'abord à Hartford, où résidait le gouverneur, John Winthrop, homme éclairé et opposé aux persécutions. À Hartford vivait aussi un disputeur puritain notoire, John Copeland et John Ruse eurent une discussion avec ce puritain en présence du gouverneur et de plusieurs magistrats. Le prêtre posa plusieurs questions dans le but de confondre les deux amis. « Qu'est-ce que Dieu ? » demanda-t-il. « Un esprit, astérisque, répondirent les amis. » Le prêtre, espérant, par un raisonnement syllogistique, montrer le contraire, nia leur assertion. « Un esprit est un ange, dit-il, un ange est une créature, Dieu n'est pas une créature, et donc Dieu n'est pas un esprit. » Mais les amis, assurés de la vérité de leur affirmation, répondirent que sa conclusion était contraire à l'Écriture, et que cela montrait qu'il avait appris plus de logique que de Dieu, car s'il avait connu Dieu, il n'aurait pas osé parler ainsi. Le prêtre, supposant qu'il avait affaire à deux hommes ignorants, passa à d'autres sujets, mais sur cela aussi, malgré son artifice de raisonnement, il échoua manifestement, à la gloire de la vérité, dit John Roux, et à sa propre honte. Une grande partie de la journée s'étant ainsi écoulée en discussions polémiques, les magistrats informèrent les étrangers que, selon une loi de la colonie, leur présence ne pouvait être tolérée dans ses limites. Leur visite au Connecticut fut brève, mais elle semble avoir été d'un bon effet. « Et le Seigneur, dit John Roux, nous donna une non petite autorité, et après y être resté quelque temps, nous retournâmes à Rhode Island. » Après avoir remarqué que les quatre colonies du Massachusetts, de Plymouth, de New Haven et du Connecticut s'étaient unies dans le dessein impie de bannir les amis, John Roux dit du Connecticut, « Parmi toutes les colonies, nous y trouvâmes la plus grande modération. La plupart des magistrats étaient plus nobles que ceux des autres. » Astérisque Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 24 Vous ne connaissez Dieu et ne savez comment l'adorer qu'après qu'il vous a personnellement changé et enseigné, en vous donnant son esprit. Pour être enseigné et changé, vous devez aller avec humilité, comme un pécheur ayant besoin de son secours et de sa grâce, et non comme un croyant sauvé et orgueilleux, avec un salut fondé sur quelques mots prononcés ou sur le fait d'être mouillé, voir la croix manquante pour plus. Le Père cherche ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Pour pouvoir le faire, vous devez d'abord crucifier votre nature égoïste sur la croix. Ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair, la nature pécheresse avec ses passions et ses désirs convoitises et affections sur la croix intérieure du renoncement à soi. Vers le troisième mois de cette année, William Ledra, arrivé récemment à Rhode Island depuis la Barbade, en compagnie de Thomas Harry, se sentit lui aussi poussé à visiter la colonie du Connecticut. Après y avoir accompli quelques services religieux, il fut arrêté et banni, puis retourna à Rhode Island. Sarah Gibbon et Dossie Wall, qui avaient œuvré à Rhode Island, quittèrent cette colonie au deuxième mois 1658 et partirent en mission d'évangile vers Salem. Le voyage, effectué à pied, leur prit plusieurs jours. Leur route traversait une région sauvage de plus de 60 milles, et comme elle se fit en saison d'hiver, elles furent exposées à de grandes tempêtes et tourmentes de gel et de neige, tandis que leur seul abri nocturne était celui que leur offraient les forêts. Elles logèrent, dit Humphrey Norton, dans le désert jour et nuit, qu'elles traversèrent avec joie pour accomplir la volonté et l'œuvre de Dieu, qui, pour leur récompense, les conduisit au-delà de leur attente, au lieu qui leur était assigné, où leur message fut reçu avec plaisir. Après avoir été occupées à des travaux d'évangile à Salem et aux environs pendant deux semaines, elles crurent qu'il leur était demandé de se rendre de nouveau dans la ville persécutrice de Boston. Arrivées là, elles estimèrent de leur devoir d'assister à la conférence hebdomadaire donnée au lieu de culte public, et après avoir attendu tranquillement que l'orateur eût terminé, Sarah Gibbon commença à s'adresser à l'assemblée. Elle n'avait toutefois prononcé que quelques phrases lorsqu'elle fut mise en état d'arrestation par le sergent. Dossie Wall se leva alors et, ayant répété le passage de l'Écriture, « Craignez Dieu et donnez gloire à son nom », elle fut elle aussi interrompue, et avec sa compagne, précipitée en prison au milieu d'une foule excitée. Après avoir été étroitement enfermée pendant trois jours, ces femmes fidèles furent traduites devant l'intolérant Endicott et Bellingham, qui les condamnèrent à être fouettées, ordre qui fut exécuté avec cruauté, avec un cordon triple, ayant des nœuds aux extrémités pour déchirer la chair. Le fouet terminé, le peuple fut étonné d'entendre ces innocentes victimes offrir à haute voix louange et action de grâce à leur Père céleste pour l'aide de sa présence soutenante au moment de leur extrémité. De là, elles furent reconduites à la prison, le geôlier refusant de les laisser partir sans paiement de ses frais. Elles y furent retenues quatre jours, puis un habitant au bon cœur de Rhode Island obtint leur libération. En quittant Boston, elles se dirigèrent vers le sud à Providence et à Rhode Island, où elles demeurèrent quelques semaines. Elles se sentirent ensuite poussées à rendre visite au Connecticut, et quittant la compagnie de nombreux amis chers et compatissants, elles se rendirent à Hartford. Nous ne sommes pas informés de la nature de leurs services religieux dans cette ville. En raison des lois de la colonie, toutefois, elles furent bientôt mises en détention et, peu de temps après, bannies de son territoire. À Hartford, hormis la vente par le geôlier de quelques vêtements supplémentaires qu'elles avaient emportés pour payer ses frais, aucun autre acte de persécution ne les atteignit. Robert Hodgson, qui, en atteignant les rivages de l'Amérique, se rendit visiter la Nouvelle-Néerlande et Long Island, arriva tôt en 1658 dans les limites de Rhode Island, d'où il passa vers les jusqu'à Marshfield, dans la colonie de Plymouth. À l'exception de Méridier, de Rhode Island, et de John Roux, William Ledra et Thomas Harry, venus de la Barbade jusqu'au troisième mois 1658, les 11 qui avaient traversé l'Atlantique sur le Wau Douce étaient les seuls amis œuvrant à l'œuvre de l'Évangile en Nouvelle-Angleterre, ce qui faisait en tout 15 personnes plaidant publiquement la cause de leur seigneur dans cette partie intéressante du monde. Mais il plut au dispensateur très sage des événements, dont les desseins, si mystérieux soient-ils, nous n'osons contester, de réduire le nombre de cette troupe dévouée. Nous avons déjà dit que Richard Doudney et Mary Clark avaient été compagnons de captivité à Boston et qu'ils furent libérés au 9e mois 1657, après quoi ils semblent s'être principalement employés dans la colonie de Rhode Island. Mary Weatherhead avait débarqué à New Amsterdam, mais sa présence n'étant permise ni dans la colonie hollandaise, ni à New Haven, elle se rendit elle aussi à Rhode Island au 2e mois 1658. Peu après, ses trois amis firent naufrage et se noyèrent. Vers le milieu du 4e mois suivant, 10 des survivants se réunirent à Rhode Island, mais il ne leur fut pas permis de jouir longtemps de cette retraite privilégiée. Le 15, William Brant, Thomas Harry et William Ledra partirent vers le nord en direction du Massachusetts. Un jour ou deux après, Christopher Rold et John Copland se dirigèrent vers les jusqu'à Plymouth, et deux semaines plus tard, Humphrey Norton et John Roux sentirent qu'il était de leur devoir religieux d'aller à Boston, les trois femmes amies, Sarah Gibbon, Dorcy Waugh et Méridier, demeurant encore à Rhode Island. Nous passons maintenant à quelques détails concernant les services des différents groupes. William Brant et William Ledra poursuivirent leur route vers Salem, mais Thomas Harry arriva à Boston le 17, jour habituel de conférence de la semaine, et poussé par un sentiment de devoir religieux, il assista à la réunion. Après avoir attendu que le prêtre eût terminé sa conférence, Thomas Harry commença à s'adresser à l'assemblée, mais il fut rapidement interrompu et réduit au silence. Il tenta de nouveau de parler, déclarant que le Seigneur Dieu s'était levé et que les couvertures des persécuteurs étaient trouvées trop étroites, car leur nudité apparaissait à tous ceux qui craignaient Dieu. Il fut alors saisi et aussitôt emmené en prison, mais peu après il fut amené devant les magistrats pour être interrogé, ou plutôt pour recevoir une sentence cruelle. Le formel et hautain Endicott, voyant le prisonnier entrer au tribunal le chapeau sur la tête, lui adressa sévèrement ces paroles « Savez-vous devant qui vous êtes venu, Thomas Harry ?»« Oui, Endicott. » »« Pourquoi alors n'ôtez-vous pas votre chapeau, Thomas Harry ?»« Je ne le garde pas par mépris de l'autorité, mais par obéissance au Seigneur. » Son chapeau ayant été arraché, et Bellingham ayant remarqué que ses cheveux étaient plus longs que ne l'admettaient leurs règles, il ordonna au prévôt d'apporter une paire de ciseaux et de les couper. Après qu'Endicott, lui, eut demandé d'où il venait et quel était l'objet de sa venue, il fut renvoyé en prison, avec consigne que personne ne soit autorisé à lui rendre visite. Le geôlier, homme cruel et sans cœur, refusant de fournir ou de vendre de la nourriture à son prisonnier, lui dit le deuxième jour que, pour chaque shilling gagné au travail, il pourrait recevoir une ration d'une valeur de 4 pence. Thomas Harry crut cependant juste de porter un témoignage net contre une conduite aussi déraisonnable et refusa de travailler. Ce refus fut presque immédiatement suivi d'une flagellation, après quoi le geôlier lui dit que, puisqu'il avait subi la peine de la loi pour avoir osé entrer dans leurs limites, il pourrait recouvrer sa liberté à condition de payer le prévôt pour qu'il l'emmène. « Si les portes sont ouvertes, je ne connais pas d'autre chose que d'y passer, dit Thomas, mais louer un garde, je ne le puis. » Son emprisonnement fut par conséquent prolongé. Le geôlier, qui refusait toujours de lui vendre de la nourriture, en apporta devant lui, avec l'assurance railleuse qu'il n'y goûterait pas s'il ne promettait pas de travailler. Il refusa de nouveau, et pendant 5 jours, dans la sinistre prison de Boston, il fut maintenu sans aucune nourriture. La 5e nuit, un ami compatissant, non découvert grâce à l'obscurité, parvint à lui faire parvenir de la nourriture par la fenêtre de la prison. Selon toute probabilité, il serait mort de faim, dit Bishop, si le Seigneur ne l'avait gardé ces 5 jours, et s'il n'avait ordonné qu'après ce temps, de la nourriture lui soit transmise nuit par une fenêtre par des gens au cœur tendre qui, bien qu'ils n'entrassent pas ouvertement dans la profession de la vérité, à cause de la cruauté des dirigeants, en ressentaient pourtant secrètement le mouvement en eux, et furent ainsi rendus utiles pour empêcher les serviteurs du Seigneur de périr. et ils ne seront pas sans récompense. Le sixième jour de son emprisonnement, Thomas Harry, refusant encore de travailler aux ordres du geôlier impitoyable, fut de nouveau soumis au fouet. 22 coups lui furent donnés cette fois, et pour accroître la torture, on utilisa une corde enduite de poids au lieu d'un fouet. Le laissant dans la prison, lacéré et déchiré par ce cruel supplice, nous nous tournons maintenant vers les démarches de ses derniers compagnons. Arrivés à Salem, William Brant et William Ledra furent chaleureusement accueillis par les quelques amis fidèles de ce lieu, avec lesquels ils eurent le privilège de tenir plusieurs réunions pour leur rafraîchissement et leur réconfort mutuel. Le premier jour, le 20 du quatrième mois, ils assistèrent à une réunion tenue à la maison de Nicholas Phelps, dans les bois, à environ 5 miles de Salem. Un magistrat de la ville, ayant appris l'intention de cette réunion, vint avec un constable pour la disperser et arrêter les deux étrangers, mais échouant dans son dessein, il quitta l'assemblée en menaçant de poursuivre les amis présents. De Salem, les deux messagers de l'Évangile se rendirent à Newburyport, où ils rendirent aussi quelques services religieux. Leur passage ainsi de lieu en lieu, au cœur même de la population puritaine de Nouvelle-Angleterre, et les conversions que leur puissant ministère produisait aux doctrines qu'ils professaient, éveillèrent les craintes de la magistrature locale face à ce nouvel état de choses. Après avoir quitté Newburyport, ils furent bientôt rattrapés par un dirigeant zélé du lieu, qui les arrêta et les ramena à Salem. Le tribunal, qui siégeait alors dans la ville, fit amener les amis pour interrogatoire. Là, on les questionna au sujet des doctrines qu'ils propageaient, mais leurs réponses étaient si claires et convaincantes, et ils en appelèrent si efficacement aux consciences des magistrats, que ces derniers reconnurent ne rien découvrir d'hérétique ou de dangereux dans leurs opinions. Le tribunal dit toutefois aux prisonniers qu'ils avaient une loi contre les Quakes et que cette loi devait être appliquée. Un ordre d'incarcération suivit immédiatement et en quelques jours, ils furent transférés à la prison de Boston. 6 amis de Salem furent également emprisonnés pour avoir assisté à la réunion chez Nicholas Phelps. Les deux paragraphes suivants sont tirés de l'histoire de Saul, Vol. Y à leur arrivée à Boston, William Brant et William Ledra, considérés comme des délinquants particuliers, furent séparés de leurs compagnons. On les plaça dans une misérable cellule dont la fenêtre était si obstruée qu'elle les privait non seulement de lumière, mais aussi d'aération, tandis que toute conversation entre eux et les habitants était strictement interdite. Le geôlier, suivant la voie cruelle qu'il avait poursuivie envers Thomas Harry, refusa de leur permettre d'acheter de la nourriture, bien qu'ils offrissent de la payer. Mais il leur dit que ce n'était pas leur argent, mais leur travail qu'ils désiraient. Ainsi, il les maintint 5 jours sans nourriture, puis, avec un fouet à 3 cordes, leur donna 20 coups. Une heure plus tard, il leur dit qu'ils pourraient sortir s'ils payaient le prévôt chargé de les conduire hors du pays. Jugeant très déraisonnable de payer de l'argent pour être bannis, ils refusèrent, mais dirent néanmoins que si la porte de la prison était ouverte, ils s'en iraient. Le lendemain, le geôlier vint trouver W. Brant, un homme âgé, et le mit au fer, cou et talons si rapprochés qu'il ne restait entre eux d'espace que pour le cadenas qui les fixait. Il le garda ainsi de 5 heures du matin à après 9 heures du soir, soit l'espace de 16 heures. Le matin suivant, il le conduisit au moulin pour travailler, mais Brant refusant, le geôlier prit une corde enduite de poids d'environ 1 pouce d'épaisseur et lui donna 20 coups sur le dos et les bras, avec toute la force dont il était capable, au point que la corde se détoronna. Puis s'en allant, il revint avec une autre corde, plus épaisse et plus solide, et dit à Brant qu'il le ferait plier à la loi du pays et le ferait travailler. Brant jugea cela non seulement déraisonnable au plus haut degré, puisqu'il n'avait commis aucun mal, mais il était aussi tout à fait incapable de travailler. Il manquait de force faute de nourriture, ayant été gardé 5 jours sans manger et aussi fouetté, et maintenant frappé si impitoyablement avec une corde. Mais ce geôlier inhumain ne se radoucit pas. Il recommença à frapper de sa corde enduite de poids ce corps meurtri, écumant de la bouche comme un fou, et lui asséna avec violence 97 coups de plus, comme l'ont raconté avec compassion d'autres prisonniers qui en furent témoins, et si ses forces et sa corde ne l'avaient pas trahi, il en aurait donné davantage. Il menaça aussi de lui en donner le lendemain matin autant. Mais une puissance supérieure, qui met des limites même à la mer déchaînée, et a dit « Jusqu'ici tu viendras, mais pas plus loin », limita aussi ce bourreau, lequel était pourtant assez effrontément hardi pour dire sa prière du matin. On conçoit aisément dans quel état terrible s'écoumirent le corps de Brant, qui, à cause de la grande chaleur, n'avait sur sa chemise qu'une casaque de serge. Son dos et ses bras étaient meurtris et noirs, et le sang pendait comme en poche sous ses bras, sa chair était si écrasée qu'on ne distinguait plus la trace d'un coup particulier, car tout était devenu comme une gelée. Son corps ainsi cruellement torturé, il s'étendit sur les planches, si extrêmement affaibli que, les forces naturelles défaillant et la vigueur venant à manquer, son corps se refroidit. Il semblait y avoir une lutte entre la vie et la mort, ses sens étaient suspendus, et pendant quelque temps il n'eut ni vue, ni sensation, ni oui jusqu'à ce qu'enfin une puissance divine l'emportant, la vie triompha de la mort, et le souffle du Seigneur fut soufflé dans ses narines. Or, le bruit de cette cruauté se répandit parmi le peuple de la ville et suscita une telle clameur que le gouverneur envoya son chirurgien à la prison pour voir ce qu'on pourrait faire. Mais le chirurgien trouva le corps de Bran dans un état si déplorable que, comme un homme sans espoir, il dit que sa chair pourrirait sur ses os avant que les parties meurtries puissent être amenées à se résorber. Cela exaspéra tellement le peuple que les magistrats, pour prévenir une émeute, affichèrent un papier sur la porte de leur maison de réunion et dans les rues, comme pour montrer leur désapprobation de cette abominable et très barbare cruauté, et ils dirent que l'on traiterait le geôlier au prochain tribunal. Mais ce papier fut bientôt retiré à l'instigation du grand prêtre John Norton, qui, dès le début, avait été un ardent promoteur de la persécution, et qui n'hésita pas à dire « W. Bran s'était forcé de mettre nos ordonnances évangéliques à bleu et à noir. S'il est alors battu à bleu et à noir, ce n'est que justice sur lui, et je comparaîtrai en faveur de celui qui l'a battu. » Il n'est donc pas étonnant que ces magistrats rigides et bigots, qui voulaient passer pour éminents en piété, aient été si cruels dans la persécution, puisque leurs prêtres et maîtres religieux les y encourageaient si méchamment. Il arriva vers ce temps-là que certains de ceux qu'on appelait Quakers, qui vivaient là, furent amenés devant les magistrats. L'un d'eux défia les magistrats en demandant comment ils pouvaient savoir qui était un Quaker, à quoi Simon Broadstreet, l'un des magistrats, répondit « Vous en êtes un, parce que vous êtes entré avec votre chapeau sur la tête. » Ce qui fit répondre l'autre que c'était une chose horrible de faire des lois si cruelles, de fouetter et de couper des oreilles, et de percer la langue, pour n'avoir pas ôté son chapeau. Alors l'un des juges dit que les Quakers proféraient des blasphèmes dans leur réunion, à quoi l'un des autres lui demanda d'en apporter la preuve, considérant qu'il avait plu à Dieu de guérir miraculeusement W. Bran et de le maintenir en vie. Comme si cela endurcissait le cœur de ses persécuteurs, pour se montrer des disciples obéissants de leur maître, ils produisirent un ordre destiné au geôlier. Si les Quakers qui étaient sous sa garde refusaient de travailler, il devait les fouetter 2 fois par semaine, la première fois avec 10 coups, la fois suivante avec 15, et ainsi à chaque fois, avec 3 de plus, jusqu'à ce qu'ils travaillent. Cela fut exécuté sur 4 personnes, dont 2 étaient William Ledra et John Roux, qui seront mentionnés plus tard. Et pour contenir le geôlier emporté dans des limites convenables, il fut ordonné qu'à chaque fois il avertisse 2 constables afin d'assister à l'exécution. Mais combien peu on entendait réellement la modération, et combien cela ressemblait davantage à une plaisanterie, on peut le voir en ce que le geôlier, la première fois, infligea 15 coups à chacun des sdits, ajoutant ainsi 5 coups de plus au premier nombre de coups de fouet. Un frère Norton, peu après le départ de William Bran et de ses compagnons pour le Massachusetts, fut saisi d'un profond exercice religieux pour les suivre dans la même direction jusqu'à Boston. Le sentiment de la force de l'inimitié contre la semence juste l'affligeait grandement et lui ôtait tout repos et tout sommeil. Dans cet état d'esprit éprouvé, il fit part à John Roux de sa perspective, qui crut que la même chose lui était demandée, lui étant sensible, remarque un frère Norton, à la nécessité de retourner là-bas pour prendre notre part avec les prisonniers de l'Espérance, qui alors se tenaient liés pour le témoignage de Jésus. Désireux d'atteindre Boston le plus tôt possible, ils voyagèrent jour et nuit et y arrivèrent le lendemain du jour où William Bran avait été traité si barbèrement. L'un des habitants de la ville, touché par la conduite perverse que les dirigeants poursuivaient et voyant l'arrivée des 2 amis, les informa des cruautés exercées envers William Bran et les supplia, s'ils aimaient leur vie, de ne pas rester dans ce lieu de persécution. Il ajouta qu'ils étaient des hommes morts s'ils ne partaient pas. Il était évident que l'honnête homme libre, dans ses efforts bienveillants pour sauver les étrangers de la souffrance, ne comprenait pas la nature de leur mission. « Tel était notre fardeau, dit un frère Norton, que hormis celui qu'il avait posé sur nous, aucune chair ni aucun lieu ne pouvait nous en soulager. » Le jour où les 2 hommes dévoués entrèrent à Boston était celui de la conférence habituelle de John Norton, et tous 2 crurent juste d'y être présents. L'esprit public de la ville étant alors très excité par l'arrivée de plusieurs ministres Quakers, l'orateur ne voulait pas laisser échapper une occasion aussi favorable d'impressionner son auditoire sur le danger des principes Quakers. John Roux, décrivant les propos de ce ministre intolérant, dit « Il commença son sermon dans lequel, parmi beaucoup d'expressions sans vie, il parla beaucoup du danger de ce qu'on appelle Quakers, et s'employa grandement à ternir leur innocence par de nombreuses paroles feintes, je suis certain que rien ou presque que du fiel et du vinaigre ne tomba de lui pendant que j'y étais, dont beaucoup de ses auditeurs furent grandement remplis. » La conférence terminée, un frère Norton, qui avait écouté tranquillement les propos calomnieux du ministre, se sentit appelé à emporter un témoignage public et se leva, commençant ainsi à s'adresser à l'assemblée. « En vérité, c'est là le sacrifice que le Seigneur Dieu n'accepte pas. Car tandis qu'avec le même esprit avec lequel vous péchez, vous prêchez et priez et chantez, ce sacrifice est une abomination. » Il était évident, pour le ministre et ses gens, que Humphrey Norton allait plaider contre la conduite perverse des Bostoniens, dans leur fausse représentation et leur persécution des amis. Depuis leur première arrivée en ce lieu, les dirigeants s'étaient soigneusement efforcés de réprimer toute discussion opposée, et en cette occasion, Humphrey fut bientôt traîné en bas et, avec son compagnon John Roux, conduit devant les magistrats. Devant ces autorités, une accusation de blasphème fut portée contre Humphrey Norton pour les paroles qu'il avait prononcées dans l'assemblée. Un long examen eut lieu, et l'accusation de blasphème fut réfutée et retirée. Cependant, puisqu'ils étaient Quakers, ils furent condamnés à la prison et à être fouettés. Durant l'examen, John Roux fut traité par les autorités avec plus de respect et d'attention qu'il n'était d'usage envers les amis. Cela venait de ce que le lieutenant-colonel Roux, père de John Roux, avait résidé dans la colonie et y était bien connu et estimé, imaginant vainement que, par leur connaissance de son père, ils pourraient amener John Roux à renoncer à sa communion avec les Quakers méprisés et hérétiques. Les magistrats commencèrent à le flatter et à le louer. Il était toutefois trop fermement établi dans la vérité pour être ébranlé par leur flatterie hypocrite, et non seulement il soutint hardiment ses doctrines devant eux, mais, en tant que citoyen anglais, il réclama le privilège de voir sa cause jugée par les tribunaux de la mère patrie. Mais révélé, les procédures judiciaires du Massachusetts à l'égard des amis étaient précisément ce devant quoi Endicott et Bellingham reculaient. Ils savaient bien qu'une telle démarche jetterait inévitablement l'opprobre sur la colonie et pourrait entraîner de graves conséquences quant à leur charte. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que l'appel de John Roux ait été vigoureusement combattu. « Pas d'appel à l'Angleterre, pas d'appel à l'Angleterre », furent les paroles de ses dirigeants intolérants en l'occasion. Avant d'être emmené hors du tribunal, John Roux évoqua la pratique inhumaine consistant à empêcher ses amis emprisonnés d'obtenir de la nourriture et exigea que lui et son compagnon puissent être pourvus d'une nourriture convenable en échange de leur argent. Cette mise au jour eut un bon effet, et aucun des deux ne fut soumis à cette forme de cruauté propre à la Nouvelle-Angleterre. Après un emprisonnement de 3 jours, Humphrey Norton et John Roux subirent le fouet auquel ils avaient été condamnés. La liberté leur fut ensuite offerte, moyennant paiement des frais de prison et du coût de leur transport au-delà des limites de la colonie, mais refusant de reconnaître ces exactions, ils furent de nouveau conduits en prison. La loi qui avait été promulguée pour le châtiment des Quakers et de tels hérétiques maudits, n'étant pas, selon l'appréciation de la magistrature de Boston, assez sévère pour ceux qui étaient alors détenus, un ordre fut donné au geôlier. Si les Quakers refusaient de travailler, ils devaient être fouettés régulièrement 2 fois par semaine. Le premier fouet devait être de 10 coups, le second de 15, et chaque fouet suivant devait comporter 3 coups de plus jusqu'à nouvel ordre. Les victimes sur lesquelles devait s'essayer l'efficacité de ce nouvel ordre étaient Humphrey Norton, John Roux, William Ledra et Thomas Harry, et le premier jour, 18 du 5e mois, chacun d'eux reçut 10 coups. Le geôlier, zélé dans son œuvre de cruauté, fit appliquer de nouveau le fouet en quelques jours, au nombre prescrit de 15 coups à chacun. Lors de cette seconde application, le sang coula abondamment des blessures non cicatrisées des prisonniers. Les habitants de Boston, déjà vivement émus par les barbaries commises sur William Brant, et de plus en plus écœurés par ces cruautés renouvelées, ouvrirent une souscription publique afin de payer les frais de prison des souffrants et de couvrir les dépenses nécessaires pour les faire conduire hors de la colonie. La somme requise fut vite réunie et peu après, William Brant et ses 4 compagnons furent conduits au refuge sûr et paisible de l'établissement de Providence. Chapitre vie et qu'est-ce que l'Éternel exige de toi, sinon que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6, 8. Les protestants d'auto-justice de la Nouvelle-Angleterre continuèrent d'être injustes, sans miséricorde. J'ai souffrance de Christopher Hold et de John Copeland dans le Massachusetts. John Roux visite Boston une seconde fois et de nouveau emprisonné. Sa lettre à Margaret Fell, le traitement barbare infligé à Christopher Hold. John Copeland et John Roux, Josiah Cole et Thomas Thurston entreprennent une visite religieuse en Amérique. Leurs travaux évangéliques parmi les Indiens. Mission de Josiah Cole parmi ceux de Martha's Vineyard et du Massachusetts. Il est rejoint par John Copeland. Ils sont emprisonnés à Sandwich. Travaux. Christopher Hold et John Copeland, comme nous l'avons déjà signalé, quittèrent Rhode Island vers le milieu du 4e mois 1658 pour la colonie de Plymouth. Le 23, ils assistèrent à une réunion de la petite compagnie d'amis à Sandwich. Le maréchal, apprenant leur arrivée, se rendit aussitôt à la réunion et les arrêta. Les ordres que ce fonctionnaire avait reçus des autorités étaient de bannir tout cela sans délai, et si l'un des bannis revenait, alors les notables choisis à cet effet devaient veiller à ce qu'on les fouettât. Conformément à ses instructions, il ordonna aux 2 amis de quitter la commune, ce à quoi Christopher Rold et son compagnon répondirent que, s'ils sentaient que telle était la volonté de leur divin maître, ils le feraient, mais qu'ils ne pouvaient pour aucun autre motif promettre de quitter Sandwich. En vue d'infliger le châtiment mentionné, les notables furent informés de la présence persistante des amis. Mais ce corps, n'ayant nul désir de cautionner des mesures si sévères envers ceux qui différaient d'eux en matière de religion, refusa d'agir dans l'affaire. Le maréchal, déçu par ce refus, résolut de les conduire devant un magistrat voisin à Barnstaple, à environ 2 miles, qui, pensait-il, prêterait volontiers la main à punir les Quakers à l'attente qui se trouva pleinement réalisée. Ce fonctionnaire, après un examen frivole des prisonniers, ordonna qu'on les attachât au poteau d'une dépendance, puis, se faisant bourreau, il infligea à chacun 33 coups de fouet. Les amis de Sandwich, conscients de la haine que le magistrat de Barnstaple vouait au cacrisme, et bien assurés qu'on ne devait attendre de lui aucune miséricorde, vinrent les accompagner afin de réconforter leurs frères dans les liens, et furent témoins oculaires et auriculaires de la cruauté exercée sur eux. C'étaient là des procédés nouveaux à Barnstaple et ils causèrent une vive sensation parmi les colons paisibles du district. Ils sentaient que, si erroné que pût être le cacrisme, une telle conduite de la part de leurs dirigeants ne s'accordait pas avec la religion de Jésus. L'un d'eux dit « Qui aurait pensé que je serais venu en Nouvelle-Angleterre pour être témoin de telle scène ?» Le lendemain, les deux amis furent ramenés à Sandwich, d'où ils furent conduits vers Rhode Island et relâchés. Après avoir travaillé pendant quelques semaines au ministère, dans les environs de Providence et de Newport, Christopher Rold et John Copland sentirent un appel religieux à se rendre à Boston. Là, ils avaient déjà connu l'emprisonnement et le fouet du Knounoue, et ils n'ignoraient pas qu'au retour de ceux qui avaient été bannis du Massachusetts, comme eux, la perte de l'une de leurs oreilles serait probablement la peine infligée. Mais ces hommes fidèles, assurés que leur appel venait d'en haut, obéirent humblement à cette injonction, croyant que celui qui avait été auparavant leurs secours et leurs boucliers ne les abandonnerait dans aucune extrémité à laquelle ils pourraient être exposés pour la vérité. Partis de Providence le 3 du 6e mois 1658, ils arrivèrent le soir même dans la ville de Dedham. À Dedham, ils y logèrent une nuit, mais le lendemain, un constable les arrêta et les conduisit à Boston, où, amenés devant le gouverneur, celui-ci dit avec rage « Soyez certains qu'on vous coupera les oreilles ». On les envoya à la maison de correction avec l'ordre suivant « Au gardien de la maison de correction vous êtes, en vertu des présentes, requis de prendre sous votre garde les personnes de Christopher Rold et John Copland, et de les détenir en sûreté au travail étroitement, avec pour seule nourriture la ration des prisonniers, jusqu'à ce que leurs oreilles soient coupées, et de ne leur permettre de converser avec personne pendant qu'ils sont sous votre garde. » Edward Rawson, secrétaire, en exécution de cet ordre, les deux amis furent gardés en stricte réclusion, et le geôlier sans pitié, suivant son habitude envers de tels prisonniers, les empêcha pendant plusieurs jours d'avoir de la nourriture, parce qu'ils refusaient de travailler à son commandement. Peu après, John Roux revint à Boston, mais il fut bientôt arrêté et mis en prison. Le 17 septembre, lui, avec Rold et Copland, furent amenés devant les magistrats au tribunal. En les voyant, le cruel gouverneur Endicott entra dans une fureur agitée, « On vous coupera les oreilles ». Le lieutenant-gouverneur leur dit qu'ils étaient dans le mépris des magistrats et des ministres, étant revenus là pour séduire le peuple, ils devaient donc savoir que quoi qu'il leur arrivât, que ce fût la perte de leurs oreilles ou celle de leur vie, leur sang retomberait sur leur propre tête. Eux le nièrent et dirent que le Seigneur les avait envoyés là. Le gouverneur, Endicott, répliqua « Vous êtes de plus grands ennemis astérisques pour nous que ceux qui viennent ouvertement, car sous prétexte de paix, vous venez empoisonner le peuple. » Que des hommes qui avaient été emprisonnés, fouettés et bannis pour leurs opinions religieuses persistassent pourtant à les défendre, avec la certitude d'encourir des rigueurs accrues, voilà ce que l'esprit obscurci d'Endicott ne pouvait comprendre, il dit « Quoi, vous demeurez dans la même opinion qu'auparavant ?» Les prisonniers répondirent avec douceur « Nous demeurons dans la crainte du Seigneur, le Seigneur Dieu nous l'a commandé, et nous n'avons pu que lui obéir et venir. » Le gouverneur s'écria « Le Seigneur vous a commandé de venir, c'était Satan. » Astérisque ainsi, Endicott a-t-il traité les Quakers d'ennemis, en ignorant les commandements du Christ de prier pour vos ennemis, d'aimer vos ennemis, de bénir ceux qui vous persécutent au lieu de quoi il veut les fouetter, leur couper les oreilles, leur percer la langue, les marquer au fer et les pendre. Tandis que les Quakers bénissaient les puritains, priaient pour les puritains, aimaient les puritains au péril de leur vie, amassant ainsi des charbons ardents sur leur tête, les vainquant finalement par l'effusion de leur sang. Gardez-vous des faux prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matt 5, 15-20 Lorsqu'on leur demanda la preuve que le Seigneur les avait envoyés, Ils répondirent que c'était en quelque sorte une preuve qu'il les avait envoyés, puisqu'ils subissaient le même traitement que le Christ avait dit à ses disciples qu'ils endureraient pour l'amour de son nom, comme le fouet, etc. À cela le major général Denison dit, « Alors, lorsque des malfaiteurs sont fouettés, ils souffrent pour l'amour du Christ. » Alors John Roux, dont le père était lieutenant-colonel à la Barbade, dit, « Si nous étions des malfaiteurs, les jugements de Dieu seraient plus lourds sur nous que ceux que nous souffrons de votre part. » À quoi le major Denison répondit, « M. Roux, car je puis vous appeler ainsi, ayant entendu dire que votre père est un gentilhomme, quel jugement de Dieu attendez-vous de plus grand que celui qui est sur vous ? Être chassé de la maison de votre père et courir ici comme un vagabond, avec une troupe de trompeurs, à moins que vous n'attendiez une corde. » À cela Roux dit, « Je n'ai pas été chassé de la maison de mon père, mais c'est par obéissance au Seigneur que je l'ai quitté, et lorsque le Seigneur m'aura débarrassé de ce pays, j'y retournerai. » Alors Endicott demanda au secrétaire de lire la loi, qui lut ensuite cette clause, que si quelqu'un qui avait été jugé par la loi osait revenir, on devait lui couper une de ses oreilles. D'autres paroles furent échangées et, entre autres, Endicott dit, « Les Quakers n'ont rien pour prouver leur mission, si ce n'est l'esprit en eux, et c'est le diable. » Et quand l'un des prisonniers dit, « Nous avons vu certaines de vos lois qui ont de nombreuses écritures en marge, mais quel exemple avez-vous dans l'écriture pour couper des oreilles ?» Endicott demanda, « Quelle écriture y a-t-il pour pendre ?» À quoi Denison répondit avec raillerie, « Oui, il voudrait être crucifié. » Astérisque alors Endicott appela les trois prisonniers par leur nom et dit, dans une grande passion, « C'est la sentence de la cour, vous trois chacun de vous, aura l'oreille droite coupée par le bourreau. » Astérisque que les juges puritains aient pu plaisanter en disant que le récit de la crucifixion de Jésus dans l'Écriture leur donnait licence de couper des oreilles, cela trahit leur extrême hypocrisie, marchant sur les traces de leur père pharisien, tandis que les Quakers marchaient sur les traces sanglantes du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui prétendent être justes par la grâce et libres d'obéir à la loi sont des hypocrites, une pierre d'achoppement, et ils dispersent les véritables brebis loin du Christ. Un hypocrite parle d'être religieux tout en marchant dans le péché. Jésus s'adressa aux hypocrites, « Vous êtes ceux qui vous justifiez devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. » Luc 16, 15. Ces gens s'approchent de moi de la bouche et m'honorent des lèvres, mais leur cœur s'éloigne et demeure loin de moi. Matt 15, 8. Vos cœurs doivent être purifiés, vraiment purifiés jusqu'à la pureté. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. Psaume 34, 18. Contrit signifie ressentir ou exprimer douleur ou tristesse pour des péchés ou des offenses. Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le mépriseras pas. Psaume 51, 17. Car ainsi parle le Très-Haut, l'élevé qui habite l'éternité, et dont le nom est saint. J'habite dans le lieu élevé et saint, et avec celui qui a l'esprit contrit et humble, pour ranimer l'esprit des humbles et pour ranimer le cœur des contrits. Aïe 57, 15. Alors on les conduisit à la prison, et le 16 septembre, l'adjoint du maréchal s'y rendit, laissant entrer autant de personnes qu'il jugea bon. Et quand les portes furent fermées, le dit maréchal eut l'ordre suivant au maréchal général, ou à son adjoint, vous devez prendre avec vous le bourreau et vous rendre à la maison de correction, et y veiller à ce qu'il coupe les oreilles droites de John Copland, Christopher Hold et John Roux Quakers, en exécution de la sentence de la cour des assistants pour violation de Edward Rawson, secrétaire environ une semaine après avoir été ainsi emprisonné, il écrivit une lettre à Margaret Fell, contenant de nombreux détails intéressants sur les activités de la société en Nouvelle-Angleterre, dont ce qui suit, tiré de l'original, est une copie. John Roux à Margaret Fell, très chère sœur bien-aimée, M. F. Vers la fin du sixième mois 1657, je vins de la Barbade avec un autre ami, habitant de l'île, et selon l'ordonnance du père, je débarquai à Rhode Island au commencement du huitième mois, dans une partie éloignée de l'île, et étant venu là, j'appris l'arrivée d'amis d'Angleterre, ce qui ne fut pas un petit rafraîchissement pour moi. Après y être resté quelque temps, je quittai l'île pour le brevet de Plymouth, à Sandwich et dans plusieurs autres villes des environs, où, en hiver, il se fit plus de service qu'on ne l'attendait. Quelque temps après, j'étais au Connecticut avec John Copland, où le Seigneur nous donna une domination non petite, car nous y rencontrâmes l'un des plus grands disputeurs de la Nouvelle-Angleterre, qui est prêtre de Hartford, qui fut grandement confondu, à la gloire de la vérité et à sa honte. Après y avoir séjourné quelque temps, nous retournâmes à Rhode Island, où se trouvait un frère Norton, et après quelque temps lui et moi allâmes dans le brevet de Plymouth, et ayant une cour pendant que nous y étions, nous allâmes à l'endroit où elle se tenait, ayant envoyé auparavant au gouverneur les raisons de notre venue. Mais nous fûmes aussitôt jetés en prison et après être passés deux fois devant eux, où l'on nous injuria beaucoup, ils nous jugèrent dignes d'être fouettés. Un frère Norton reçut 23 coups, et moi 15 avec des verges, ce qui se révéla grandement à l'avantage de la vérité et à leur désavantage. Car les amis, avec beaucoup d'assurance, nous reconnurent ouvertement en cela, et cela travailla profondément chez beaucoup. après avoir été relâchés, nous retournâmes à Rhode Island, et après y avoir séjourné quelque temps, nous allâmes à Providence et de là à Boston pour rendre témoignage en quelques mots dans leur maison de réunion, contre leur culte, jusqu'à ce qu'ils nous traînassent dehors et nous conduisissent à leur maison de correction. Et ce soir-là, nous fûmes examinés et incarcérés. Le septième jour au soir, ils nous fouettèrent de 10 coups chacun avec un fouet triple pour conclure une semaine d'œuvre mauvaise, laquelle fut ceci. Le deuxième jour, ils fouettèrent 6 amis. Le troisième jour, le joli M. William Brand, un ami venu de Londres au carcan coups et talons, comme ils disent, offert pendant 16 heures. Le quatrième jour, le geôlier donna à William Brand 117 coups avec une corde goudronnée. Le cinquième jour, ils nous emprisonnèrent, et le septième jour, nous souffrîmes. Le passage à tabac de William Brand fit grand effet dans la ville, et pendant un temps, beaucoup de liberté fut accordée, car plusieurs personnes vinrent nous voir en prison, mais les ennemis, voyant l'empressement et l'amour du peuple envers nous, complotèrent et un mandat fut émis. Si nous ne voulions pas travailler, nous serions fouettés une fois tous les 3 jours, et la première fois 15 coups, la seconde 18, et la troisième 21. Ainsi, le deuxième jour après notre premier fouet, 4 d'entre nous reçurent 15 coups chacun, ce qui travailla tellement le peuple que, le quatrième jour suivant, nous fûmes relâchés. Nous retournâmes à Rhode Island et y demeurâmes quelque temps, et après un certain temps, un frère Norton alla dans le brevet de Plymouth auprès des amis là-bas, et je fus poussé à aller à Boston, de sorte que ce jour-là, 5 semaines après ma libération, la nuit, je fus remis en prison. En prison se trouvaient Christopher Hold et John Copeland, 2 des amis venus d'Angleterre. Nous attendons ici, selon leur loi, qu'on coupe à chacun de nous une oreille, mais nous sommes maintenus dans la domination de Dieu, et nos ennemis sont sous nos pieds. On rapporte que nous serons jugés à une cour qui doit se tenir la semaine prochaine, et si le navire ne part pas d'ici avant cela, vous entendrez davantage sur ce qui est ordonné pour nous, si Dieu le permet. Beaucoup se lamentèrent pour moi quand je revins, mais je ne m'en préoccupais pas. J'ai été fortement tenté de dire que j'étais venu en ville pour embarquer et aller à la Barbade, mais je ne pouvais renier celui qui me poussait à venir ici, ni son service pour éviter les souffrances. Ce récit, brièvement, je vous l'ai donné, afin que vous sachiez comment il m'est allé depuis que je suis venu dans ce pays. Il y a environ 5 semaines, 6 amis astérisques ayant achevé leur service ici, embarquèrent pour la Barbade, dont 2 devaient aller en Virginie et au Maryland, 2 à Londres, et les 2 autres étaient habitants de la Barbade, de sorte qu'il ne reste que 4 d'entre nous dans ce pays. Astérisque, il s'agissait sans doute de William Ledra et de Thomas Harry, de la Barbade, ainsi que de William Brand, Richard Hodgson, Dorsey Waugh et Sarah Gibbon. Les 4 restés en Nouvelle-Angleterre étaient un frère Norton, John Copeland, Christopher Hold et John Roux. Chères sœurs, la vérité s'est répandue ici sur plus de 200 000, et beaucoup sont en bon état, et très sensibles à la puissance de Dieu, et marchent honnêtement selon la mesure qui leur est donnée. Quelques habitants du pays qui sont amis sont sortis au service, et ils affligent l'ennemi plus que nous, car ils espéraient se débarrasser de nous, mais ils n'ont aucun espoir de se débarrasser d'eux. Pour l'instant, nous portons le fardeau du service à leur place, car dès qu'il y a besoin en un lieu, aussitôt l'un ou l'autre de nous s'y rend, mais quand il plaira au Père de nous retirer de ce pays, alors le fardeau retombera sur eux. La semence à Boston est dans le brevet de Plymouth est mûre, et le poids repose beaucoup sur cette ville, laquelle, une fois soumise à la vérité, les autres ne résisteront pas longtemps. La semence dans les brevets du Connecticut et de New Haven n'est pas encore mûre, mais il y a un signe d'espérance, et la récolte en son temps tournera grandement à la gloire de Dieu. Nous avons 2 places fortes dans ce pays, l'une à Newport, à Rhode Island, et l'autre à Sandwich, sur lesquelles l'ennemi n'aura jamais domination. Et à Salem, il y a plusieurs amis de bons à loi selon leurs mesures, mais, étant très jeunes et l'ennemi exerçant contre eux beaucoup de cruauté, ils ont été quelque peu dispersés. Toutefois, certains d'entre eux sont devenus assez hardis au travers de leurs souffrances. Nous entendons dire qu'Humphrey Norton a été avec eux cette semaine et qu'il a eu une belle et grande réunion parmi eux, dont ils ont reçu beaucoup de force. L'un des habitants de Salem fut fouetté 3 fois en 5 jours, une fois pour satisfaire leur loi et 2 fois pour avoir refusé de travailler. Après 11 jours d'emprisonnement, il fut relâché et a tiré beaucoup de force de ses souffrances. Grandes ont été les souffrances des amis dans ce pays, mais généralement, ils souffrent avec beaucoup d'assurance et de courage, tant la spoliation de leurs biens que les mauvais traitements infligés à leur corps. Il y a des amis, plus ou moins, presque d'un bout à l'autre du pays habité par les Anglais. Une ferme fondation a été posée dans ce pays, telle que le diable ne parviendra jamais à la renverser. Si vous êtes libre de m'écrire, vous pouvez adresser votre lettre pour qu'elle me soit envoyée à la Barbade. Ainsi, en celui qui est éternel, je demeure, John Roux, votre frère, selon ma mesure, qui souffre pour l'amour de la semence, assoiffé ardemment de la prospérité et de la paix de Sion, la cité du Dieu vivant, depuis une tanière de lion appelée la prison de Boston, ce 3 jour du 7e mois 1658 P. S. Mes chers compagnons de captivité, John Copland et Christopher Hold, vous saluent très affectueusement. Saluez-moi affectueusement dans le Seigneur auprès de vos enfants et du reste de votre famille qui est dans la vérité. Les prisonniers furent conduits dans une autre pièce où John Roux dit au maréchal : Nous avons fait appel au principal magistrat d'Angleterre. Celui-ci répondit qu'il n'avait rien à voir avec cela. Hold dit : Une telle exécution devrait se faire publiquement et non en privé, car cela est contraire à la loi d'Angleterre. Mais le capitaine Oliver répliqua : Nous le faisons en privé pour vous empêcher de colporter. Alors le bourreau prit Hold, et après avoir écarté ses cheveux, comme il allait lui couper l'oreille, le maréchal lui tourna le dos, ce qui fit dire à Roux : Tournez-vous et regardez, car tel était son ordre. Le maréchal, quoique rempli de peur, se retourna alors et dit : Oui, oui, regardons cela. Roux, plus intrépide que son persécuteur, subit de même, ainsi que le troisième, et ils dirent : Ceux qui le font par ignorance, nous désirons de tout notre cœur que le Seigneur leur pardonne, mais pour ceux qui le font par malice, que notre sang soit sur leur tête, et cela sauront, au jour du compte, que chaque goutte de notre sang pèsera sur eux comme une meule. Astérisque, n'oublions pas le bien-aimé apôtre Paul, qui, pensant servir Dieu, persécutait par ignorance les premiers chrétiens, lorsqu'il était seul, avant d'être réveillé par la lumière du Christ sur le chemin de Damas, prouvant qu'il est possible de commettre de graves torts dans l'ignorance. Une fois réveillé, Paul devint l'un des plus grands serviteurs du Seigneur Jésus-Christ de toute l'histoire. Par la suite, ces personnes furent fouettées. « Dans la force de Dieu, disent les prisonniers, nous avons souffert avec joie, ayant librement abandonné non seulement une partie de notre corps, mais notre corps tout entier, si le Seigneur l'exigeait, pour sceller notre témoignage que le Seigneur nous a donné. » Le 7 du 8e mois, John Roux, Christopher Hold et John Copland furent libérés de prison, le premier ayant été détenu 6 semaines, et les deux autres 9 semaines. Astérisque, ce châtiment dégradant pour des offenses ecclésiastiques avait été pratiqué en Angleterre à l'encontre des puritains. Sur ordre de la Chambre étoilée, William Prynne en 1634, puis Henry Burton et le Dr Bastwick en 1637, eurent les oreilles coupées en public sur un échafaud dans Palace Yard, à Westminster. À l'exception de la visite de John Roux, William Ledra et Thomas Harry, aucune nouvelle arrivée d'amis dans le ministère ne semble s'être produite en Nouvelle-Angleterre pendant plus d'un an après le débarquement de ce venu sur le navire de Robert Fowley. Vers le 8e mois 1658, toutefois, Josiah Cole et Thomas Thurston, qui s'étaient engagés dans des travaux religieux parmi les Indiens en Virginie et dans les Nouveaux Pays-Bas, atteignirent Rhode Island après avoir voyagé par l'intérieur du pays. Ce voyage terrestre se fit à travers plusieurs centaines de milles de forêt. Les Indiens qui habitaient ces étendues sauvages incultes avaient été fortement exaspérés par les colons européens, avec lesquels ils se trouvaient souvent engagés dans des conflits des plus meurtriers. Et lors de soudaines attaques surgies de la forêt, des villages entiers de Hollandais avaient été ravagés. Le fait que 2 ou 3 Anglais désarmés et sans défense s'aventurassent parmi ces indigènes irrités et vindicatifs suscita donc une surprise considérable. Mais ils portaient la paix et la bienveillance à ces fils de la forêt plongés dans les ténèbres. Leur mission aussi venait d'en haut, et ils partirent dépouillés de crainte. Se fiant au bras, infaillible du berger d'Israël, ils traversèrent en parfaite sécurité les villages de wigwams de l'intérieur. Un récit de cet extraordinaire voyage est encore conservé, dont nous donnons l'extrait suivant. Josiah Cole à George Bishop : Nous partîmes de Virginie le 2 du 6e mois 1658, et après environ 100 000 de voyage par terre et par eau, nous arrivâmes parmi les Indiens Susquehanna, qui nous reçurent courtoisement et nous hébergèrent dans leur hutte avec beaucoup de respect. Après être restés là 2 ou 3 jours avec mots indistincts, plusieurs d'entre eux nous accompagnèrent environ 200 milles plus loin, à travers la solitude ou les bois, car il n'y avait pas d'habitants si loin, et nous ne connaissions aucune partie du chemin par lequel le Seigneur nous avait requis de voyager. Car nous ne savions pas comment subvenir à notre subsistance extérieure, mais sans questionner ni douter, nous nous abandonnâmes librement au Seigneur, sachant assurément que sa présence était et devait continuer d'être avec nous. Et selon notre foi, il en fut ainsi, car nous trouvâmes chaque jour sa présence et son amour avec nous, nous portant dans sa force, et ouvrant aussi le cœur de ces pauvres Indiens, de sorte qu'en tout temps de besoin ils furent rendus serviables, tant pour nous faire passer les rivières que pour nous fournir une nourriture suffisante. Après ce voyage, nous arrivâmes en un lieu où d'autres d'entre eux habitaient, et eux aussi nous accueillirent très aimablement dans leur maison, où nous restâmes environ 16 jours, parce que mon compagnon de voyage Thomas Thurston était faible de corps par maladie et boiterie. Pendant ce temps, ces Indiens nous témoignèrent beaucoup de respect, car ils nous donnèrent librement le meilleur qu'ils pussent obtenir. Quelque peu remis après ce séjour, nous passâmes vers la plantation hollandaise, jusqu'à laquelle l'un de nous accompagna, ce qui était encore environ 100 000 plus loin. Je suis votre ami dans la vérité. Josiah Coal, après être arrivé à Rhode Island, Josiah Cole se sentit très vite attiré à visiter les Indiens de l'île de Mancers Vineyard. J'eus une réunion parmi eux, observe-t-il, et ils furent très affectueux et me dirent qu'ils désiraient beaucoup connaître Dieu. De là, il passa dans la colonie de Plymouth et travailla, dans l'amour de l'Évangile, parmi les tribus indiennes de ce district. Quelques-uns d'entre eux, écrit-il, avaient de véritables soupirs après la connaissance de Dieu. Ici, il fut rejoint par John Copeland, et ils allèrent de tribu en tribu parmi les indigènes du Massachusetts, annonçant le jour du Seigneur, reçu avec courtoisie et bonté, mais en atteignant la ville de Sandwich et les demeures des civilisés, un traitement contraire les attendait. L'arrivée de deux ministres quakers anglais ayant été portée à la connaissance des autorités, ils furent bientôt soumis aux lois de la colonie contre de tels hommes, et tandis qu'ils se trouvaient dans la maison d'un ami à Sandwich, ils furent violemment traînés dehors et mis en prison. À sa libération, Josiah Cole retourna vers les Algonquins sans instruction, prêchant les richesses insondables du Christ et les invitant à lui comme chef, consolateur et sauveur pleinement suffisant de son peuple. Bien que ces fils de la forêt sans instruction sachent que le jeune prédicateur venait tout juste de sortir des murs de la prison de ses persécuteurs, ils écoutèrent néanmoins attentivement ses exhortations. La haine que les dirigeants du Massachusetts nourrissaient envers les amis était un fait que les Indiens n'ignoraient pas, mais, agissant selon leur propre sens du bien et du mal, ils n'étaient pas disposés à suivre cet exemple malveillant. Les Anglais n'aimaient pas les Quakers, remarqua à cette occasion le roi indien Josiah Cole, mais ajouta-t-il, les Quakers sont des hommes honnêtes et ne font aucun mal, et ceci n'est ni la mer ni la terre de l'anglais, et les Quakers viendront ici et seront les bienvenus. L'amour et la faveur que Josiah Cole trouva parmi ces Indiens impressionnèrent profondément son esprit. « J'avoue, écrivit-il, que c'est la main d'amour du Seigneur envers moi, par la bonté du Seigneur, nous avons trouvé ces Indiens plus sobres et plus semblables à des chrétiens envers nous que les chrétiens ainsi nommés. Cet infatigable ouvrier au service de la vérité, ayant maintenant été absent depuis un temps considérable de son pays natal, se sentit libre de rentrer chez lui. » Thomas Thurston ne fit qu'un court séjour à Rhode Island, puis repartit vers le sud, en Virginie. À peu près à cette époque, Peter Kausnook, un ami du nord de l'Angleterre, dirigeait sa route vers l'Amérique du Nord, en compagnie d'Edward Eads et de Philip Rose de Warwick. Son désir était, si possible, de naviguer directement d'un port anglais vers la Nouvelle-Angleterre, mais n'ayant pu y parvenir, il se rendit d'abord à la Barbade, accompagné de Henry Fell et de quelques autres amis, dont les deux de Warwick. Ils atteignirent la Barbade au 7e mois 1658, et le mois suivant, Peter Kausnook, Edward Eads et Philip Rose prirent des dispositions pour se rendre à Rhode Island par la Virginie, mais on n'a pas établi s'ils atteignirent les rivages de la Nouvelle-Angleterre. Peu de temps avant l'embarquement de Peter Kausnook pour cette visite religieuse, il adressa une lettre à Margaret Fell, dans laquelle il rapporte une conversation qu'il eut avec George Fox au sujet de sa perspective religieuse, et à propos de laquelle il semble avoir éprouvé par moments des sentiments de découragement. « Je l'interrogeai à ce sujet, dit-il, lorsque je fus d'abord avec lui, et il s'en remit à moi. Je fus ensuite avec lui à l'Assemblée générale chez John Crook, et comme auparavant, il dit qu'il s'en remettrait à moi. Mais comme j'étais quelque peu troublé, il demanda ce que je voulais qu'il dise, avais-je en moi-même la liberté de repartir en arrière. Je répondis que je ne le voyais pas pour l'instant, alors il dit de nouveau qu'il s'en remettrait à moi. Le soin observé par George Fox de ne pas s'ingérer dans une affaire où l'appréhension individuelle du devoir était en jeu, et son souci que la personne ne s'appuyât pas sur le jugement d'autrui, offrent un exemple frappant de sa vigilance sur des questions aussi importantes astérisque. Astérisque et pourtant aujourd'hui, les Quakers modernes accusent Fox de ne rendre qu'un hommage de façade à la conscience individuelle. Dans les pages suivantes de cette histoire, nous n'aurons guère l'occasion de faire référence à ceux qui traversèrent l'Atlantique sur le navire de Robert Fowley, ni aux autres messagers de l'Évangile dont les visites en Nouvelle-Angleterre ont aussi été signalées, à l'exception de William Robinson, William Ledra, Robert Hodgson et Josiah Cole. Un aperçu de la vie de ces serviteurs consacrés du Seigneur, dont nous allons maintenant détourner notre attention, peut donc être donné, sans impropriété, dans ce chapitre. Ils possédaient sans doute des dons et des aptitudes au service de leur Seigneur très différents les uns des autres, mais, cherchant à être conduits par sa voie infaillible, ils furent maintenus dans l'unité et l'amour, et dans un labeur harmonieux pour sa sainte cause, et ils furent rendus éminemment utiles à la propagation d'une religion vivante parmi les hommes. Mary Clark était l'épouse de John Clark, artisan de Londres, et s'unit en communion religieuse avec les amis très tôt après leur apparition dans cette ville. Elle se manifesta bientôt comme ministre et, en 1655, voyagea dans le Worcestershire pour faire des remontrances à la magistrature locale au sujet de leur traitement cruel envers les amis. Au cours de cette visite, elle fut mise au pilori à Evesham pendant 3 heures, un jour de marché, et exposée à d'autres souffrances. Laissant son mari et ses enfants en 1657, elle entreprit la visite en Nouvelle-Angleterre. Le premier membre de la société à avoir subi le fouet en Grande-Bretagne fut Mary Fisher, mais il échut à Mary Clark d'être la première parmi les amis à souffrir de cette manière révoltante en Amérique. Elle fut libérée de la prison de Boston au 9e mois 1657 et fut occupée au service religieux en Nouvelle-Angleterre jusqu'au début de 1658, quand, comme nous l'avons déjà mentionné, avec deux de ses compagnons de ministère, Richard Dudney et Mary Weatherhead, elle fit naufrage et se noya. Ainsi pouvons-nous croire avec révérence, fut-elle soudainement appelée d'un chemin de tribulation à une gloire ineffable et impérissable. Les souffrances qu'elle endura en Nouvelle-Angleterre furent supportées avec une patience chrétienne remarquable, son innocence prêchant la condamnation à ses adversaires, et, pour sa fidélité en cela, dirent ses compagnons, « Le Seigneur Dieu est sa récompense », tait Richard Dudney avant la visite de Richard Dudney en Amérique, nous ne trouvons aucun fait le concernant. Après son engagement en Nouvelle-Angleterre, en 1657, il se joignit à Christopher Rold pour une visite dans certaines des îles des Antilles. Il revint toutefois à Rhode Island au printemps 1658, peu après quoi eut lieu le triste naufrage dans lequel il se noya. Il est décrit comme un « homme innocent » et comme quelqu'un qui « servait le Seigneur dans la sincérité de son cœur » et il était sans doute préparé à répondre à l'appel solennel. Mary Weatherhead semble avoir été une habitante de Bristol. On n'a toutefois rencontré aucun détail sur sa vie avant sa traversée de l'Atlantique en 1656. On parle d'elle comme d'une personne non mariée et l'on croit qu'elle était jeune au moment de sa mort. Sarah Gibbon, le récit de la visite à Boston de la petite troupe de messagers de l'Évangile, en 1656, introduit pour la première fois à notre attention le nom de cette amie. Après son expulsion du Connecticut au début de 1658, elle semble avoir travaillé pendant quelques mois dans les limites de Rhode Island, d'où, en compagnie de Dorcy Waugh, du vieux Brant et de 3 autres amis, elle se rendit en service religieux à la Barbade. En 1659, nous la trouvons de nouveau à Rhode Island. Son pèlerinage terrestre, toutefois, touchait alors à sa fin, et sa terminaison fut terriblement soudaine et poignante. Alors qu'elle tentait de débarquer d'un sloop à Providence, elle se noya. Le triste accident est ainsi mentionné dans une lettre de William Robinson, datée du 5e mois 1659. Comme ils s'approchaient du rivage, près de cette ville, un homme vint dans un canoë pour les prendre à bord. Ils y montèrent avec quelques autres, sans prendre garde que le canoë était mauvais, et peu après qu'ils y furent, le canoë se remplit d'eau et coula. Tous ceux qui étaient dans le canoë s'échappèrent et gagnèrent le rivage, sauf Sarah Gibbon qui se noya. À marée basse, on la trouva, et le lendemain on l'enterra dans le verger de Richard Scott. Après avoir évoqué l'épreuve que représenta pour ses amis cette disparition inattendue, William Robinson ajoute « Mais nous fûmes consolés en ceci, qu'elle fut gardée fidèle jusqu'à la fin. » Dorcy Waugh, qui résidait, croit-on, à Londres, se joignit aux amis, très peu de temps après leur apparition dans cette ville, et elle est mentionnée comme étant à la fois jeune et non mariée. Vers la fin de 1654, elle voyagea dans l'œuvre du ministère dans le Lancashire, puis de là à Norwich, où pour avoir exhorté le peuple sur le marché, elle fut emprisonnée pendant 3 mois. À sa sortie de la prison de Norwich, elle se rendit à Londres pour rencontrer George Fox. Pendant l'année 1655, elle parcourut le pays dans des travaux évangéliques, vers les comtés de l'ouest jusqu'en Cornouailles, et vers le nord jusqu'au Cumberland. Au cours de ce service, elle fut emprisonnée à Truro, et à Carlisle elle subit des traitements barbares pour avoir prêché dans les rues. Au début de 1656, elle visita quelques-uns des comtés du sud de l'Angleterre. Les souffrances du Berkshire pour cette année relatent son incarcération à la prison du comté, pour avoir adressé la parole à l'assemblée dans le lieu de culte public de Reading. Son emprisonnement, toutefois, fut cette fois de courte durée, car peu après elle s'embarqua pour sa première visite en Nouvelle-Angleterre. Les voyages et les souffrances de Dorcy Waugh, en Nouvelle-Angleterre, jusqu'au 4e mois 1658, ont déjà été rapportés, et après cette période, la seule mention qui nous reste à son sujet est celle d'une visite aux îles des Indes occidentales, vers la fin de la même année. Il est remarquable que, des quatre femmes amies qui faisaient partie de la petite compagnie de ministres de l'Évangile ayant traversé l'Atlantique à bord du bateau Wo 12, dans les 2 ans suivant leur débarquement en Amérique, Dorcy Wo fut la seule survivante, ses compagnes ayant toutes trouvé une tombe dans les eaux. William Brand, parmi les ministres de la société qui furent appelés sitôt à travailler à l'œuvre de l'Évangile en Nouvelle-Angleterre, rares sont ceux dont le caractère présente des traits d'un plus grand intérêt que celui de William Brand. La prédication puissante de Burroughs et Rowgill n'avait pas longtemps retenti dans la cité de Londres avant que cet homme ancien et vénérable n'apparaisse dans les rangs des ministres de la nouvelle société. Parvenu à l'âge adulte à l'époque de la mort de la reine Elizabeth, il fut témoin de l'oppression et des persécutions infligées aux puritains sous Jacques Ier, mais quelle fut sa propre profession religieuse durant ce règne, et pendant les guerres civiles de Charles Ier, ou durant l'effervescence religieuse qui suivit au jour du Commonwealth, cela ne paraît pas. Ses bonnes capacités naturelles et son intelligence générale autorisent à supposer qu'au moins, il ne pouvait pas être un spectateur indifférent de ce qui se passait autour de lui à cet égard. Le fait qu'il soit évoqué comme un homme craignant Dieu en sa génération et connu de beaucoup d'habitants de la cité de Londres renforce cette croyance. Bien que son appel à l'œuvre du ministère ne survînt qu'au soir de sa vie, il plut néanmoins à son maître divin de le conduire, dans l'exercice de son don, vers des pays lointains, et ainsi, en 1656, il s'embarqua avec 7 autres pour l'Amérique du Nord, puis de nouveau l'année suivante. En ces 2 occasions, William Brand occupa une position intéressante, car à l'exception d'un, ou tout au plus 2 d'âge mûr, tous ses compagnons de labeur dans le ministère étaient jeunes et non mariés. La présence dès lors de quelqu'un qui, par l'âge, était pour eux comme un père et qui était aussi expérimenté dans la vérité, dut rendre sa compagnie particulièrement appréciée. Les chapitres précédents détaillent ses voyages et ses souffrances en Nouvelle-Angleterre. On peut toutefois remarquer que, hormis le martyr de 4 individus, au milieu de toute la cruauté que l'intolérance sectaire infligea aux premiers Quakers de Nouvelle-Angleterre, nul supplice ne fut plus sévère, ni plus contraire au sentiment d'humanité, que celui enduré par ce bon vieillard. En 1658, il semble qu'il quitta Rhode Island pour une visite aux Indes occidentales. En 1659, toutefois, nous le retrouvons plaidant de nouveau la cause de la vraie religion à Boston. Cela eut lieu après l'adoption de la loi du Massachusetts ordonnant le bannissement sous peine de mort, et en vertu de laquelle, au 3e mois, il fut expulsé de la juridiction. Pendant quelques mois après cela, ses engagements religieux furent confinés dans les limites de Rhode Island. Il était prisonnier à Newgate, à Londres, au 9e mois 1662. Quand son incarcération y commença, il est difficile de le déterminer. Au 11e mois 1664, certaines de ses pièces publiées sont datées de Newgate, et le mois précédent, Bess rapporte qu'il fut condamné avec plusieurs autres à la déportation en Jamaïque. L'insurrection des hommes de la 5e monarchie en Angleterre à la fin du protectorat fournit aux royalistes un prétexte pour adopter des mesures plus sévères envers les non-conformistes. L'imposition du serment d'allégeance était la plus marquante de ces mesures, et la société des amis s'opposant au serment de toutes sortes, elle s'abattit sur elle avec une force particulière. Mais malgré les nombreux emprisonnements qui en résultèrent, vers la fin de 1661, le législateur adopta une loi pour interdire les réunions des dissides, dans laquelle les « Quakers » étaient spécialement visés. Les peines prévues pour l'application de la loi étaient-elles, selon les termes de ses promoteurs, qu'elles pourraient être profitables pour agir sur les humeurs de tels fanatiques et guérir les maladies de ce peuple. La Société des Amis avait supporté une grande somme de souffrances cruelles par la remise en vigueur de lois originellement dirigées contre les papistes. Elle dut toutefois, en 1662, éprouver une oppression plus redoutable dans cette tentative de la législature de l'écraser. Le torrent de persécution qui s'abattit sur elle en conséquence de la loi en question, et la noble fermeté que les amis furent fortifiés à opposer, constituent l'un des faits les plus remarquables de l'histoire de ce peuple. En très peu de temps, après l'adoption de cette loi cruelle, il n'y eut pas une prison de comté en Angleterre qui ne comptât parmi ses détenus des amis incarcérés en vertu de ces dispositions, tandis que certaines prisons en étaient littéralement bourrées. À Newgate seulement, William Brand pouvait compter des centaines de ses corligionnaires. Les lieux misérables où on les entassait pendant ces emprisonnements sont presque incroyables. La puanteur de Newgate était telle que, durant 1662 et les 2 années suivantes, pas moins de 52 des codétenus de William Brand moururent de maladies contractées là. Edward Burroughs, qui fut l'un de ses martyrs, parle d'une 100aine dans une même pièce à la fois. Au cours de cette tempête de persécution, de nombreuses exhortations chrétiennes à la fidélité et à la constance furent adressées aux souffrants par les amis les plus en vue de l'époque, parmi lesquels nous en trouvons une de la plume de William Brand, intitulée « Une salutation aimante à tous les amis partout, en ce grand jour d'épreuve, afin de demeurer fidèle à Dieu par-dessus toutes les souffrances ». Les extraits suivants de cette pièce témoignent de l'aptitude de l'auteur pour de tels services, et du vif désir qu'il éprouvait de maintenir l'amour et l'harmonie parmi ses frères persécutés et éprouvés partout. Il m'a été sur le cœur, lorsque je reposais doucement dans les courants de l'amour et de la vie de mon Père, par lesquels mon cœur, mon âme et mon esprit ont été submergés, de vous visiter d'une salutation aimante depuis le lieu de mes liens extérieurs et de mon emprisonnement pour l'Évangile. Ô venez, mes chers agneaux et mes chers petits-enfants, c'est un temps pour nous de nous rassembler dans l'enclos de notre Père, et d'entrer dans sa tente de sûreté, et de nous coucher dans les bras de son cher amour, et d'être couverts par l'aile de sa puissance. Maintenant le sanglier de la forêt est dehors pour faire sa proie, et les dévorateurs aux instincts de loup cherchent à disperser les brebis du pâturage du Seigneur. Ô que nous ressentions et connaissions le port sûr, dans lequel seul se trouve la sécurité, tandis que les violentes bourrasques et les tempêtes nous entourent de toutes parts, et que la rage écumante des mers agitées soulève leurs vagues, l'une après l'autre. Ô chers agneaux et chers petits-enfants de Dieu, notre rocher est sûr et ferme, notre refuge et notre port sont sûrs et inébranlables, et notre pilote est sage et d'une habileté extrême. Il n'est aucun danger proche qui puisse nous atteindre dans notre voyage vers notre terre de repos éternel, qu'il ne prévoit, et qu'il ne sache très bien éviter. Il n'a jamais fait défaut à ceux qui se sont confiés en lui, et dans le bras de son salut, puissions-nous tous demeurer fermes, nous conduire en homme, et être forts dans la puissance de sa force. Ô chers agneaux, nous avons une grande part, car je puis dire dans le secret de mon âme, le Seigneur est ma part, et il a été et est aussi la vôtre, vous qui l'avez attendu, et en qui est votre délice. Dans l'amour et la vie de l'agneau, passez par-dessus toute faiblesse les uns des autres, comme Dieu passe par-dessus toute la faiblesse de chacun de nous, et nous aime à cause de son propre Fils. En agissant ainsi, la paix abondera dans nos frontières, elle jaillira parmi nous comme un fleuve, et elle tiendra loin de nous les heurts, les querelles et les disputes, et ainsi nous serons gardés comme une belle et aimable famille, et dans l'ordre de Dieu. Ces quelques lignes manifestent quelque chose de ce qui était sur mon cœur envers vous, dans les sentiments de l'amour de mon Père, tandis que je reposais dans mon lit pendant la nuit, en ce 11 du 9e mois, 1662, prison de Newgate à Londres. William Brand. Plusieurs autres pièces furent également écrites et publiées par William Brand durant son emprisonnement à Newgate. Bien que William Brand eût reçu une sentence de bannissement vers la Jamaïque, elle ne fut pas exécutée. Cela ne résulta d'aucun changement de sentiment chez ses persécuteurs, mais simplement de la difficulté qu'ils éprouvèrent à se procurer des navires à cette fin. À une ou deux exceptions près, les armateurs et capitaines refusèrent de s'engager dans cette affaire infâme, car conscients de la droiture et de l'intégrité des souffrants, ils ne souhaitaient pas ainsi cautionner des procédés qui portaient manifestement la marque de la cruauté et de l'injustice. Le nombre d'amis condamnés au bannissement augmenta progressivement. À l'été 1665, il s'élevait à Newgate à 120, et si la grande peste de Londres n'était pas survenue, le nombre, sans doute, aurait été considérablement accru. Vers le moment où cette pestilence dévastatrice atteignit son apogée, les portes des prisons de la métropole furent ouvertes pour la libération des amis, mais non avant que les esprits de quelques dizaines astérisques des innocentes victimes de l'intolérance n'aient été à jamais affranchis, par la main de la mort, de toute oppression terrestre. En 1672, l'Assemblée annuelle, comme d'habitude, se tint à Londres. Ce fut une occasion importante dans l'histoire des amis, et William Brand, âgé et affaibli qu'il fut, y assista. Son nom, avec celui de 11 autres, figure dans les registres de la Réunion comme ayant préparé l'une des épîtres publiées alors. La seule mention qui nous reste à son sujet est celle qui consigne sa mort environ 4 ans plus tard. Il ne devait guère avoir, sinon, moins de 90 ans, un frère Norton. La première mention que nous trouvons concernant un frère Norton figure dans une lettre manuscrite adressée à Margaret Fell au 7e mois 1655, par Thomas Willen de Candale. Il en ressort qu'il résidait alors à Londres et agissait comme l'agent ou officier accrédité de la société pour l'assistance des amis voyageant dans le ministère. Tout en s'acquittant de cette charge, il entretenait une correspondance fréquente avec Thomas Willen et George Taylor de Candale, qui étaient activement engagés dans la supervision des affaires du corps dans son ensemble, plus particulièrement en ce qui concerne les dispositions prises pour couvrir les frais de voyage des amis exerçant le ministère. L'essor de la Société des Amis à Londres eut lieu environ un an avant la date de la lettre évoquée, mais comme elle existait en tant qu'association distincte dans les comtés des Midlands et du Nord depuis près de 10 ans auparavant, le fait que Candale fût alors le lieu central du corps s'explique. La date précise à laquelle un frère Norton se manifesta comme ministre est difficile à établir, mais dès 1655, Il semble avoir voyagé en cette qualité dans le nord de l'Angleterre, et l'on sait que, l'année suivante, il fut largement engagé dans le ministère en Irlande. Pendant cette période, il avait fait connaissance de cette mère nourricière dans l'église, Margaret Fell, avec laquelle il maintint une correspondance. George Fox, dans le journal de Cambridge, rapporte l'acte magnanime suivant accompli par un Frénorton. « Alors que j'étais en prison à Launceston, un ami se rendit auprès d'Olivier Cromwell et s'offrit, corps pour corps, à être couché à Domsdale à ma place, s'il voulait le prendre et me remettre en liberté. Cela le frappa si vivement qu'il dit à ses grands hommes et à son conseil, « Lequel d'entre vous ferait autant pour moi, si j'étais dans la même condition ?» Et bien qu'il n'accepta pas l'offre de l'ami, disant, « Il ne peut le faire, car c'est contraire à la loi », la vérité néanmoins s'imposa puissamment à lui par ce moyen. Suit la lettre adressée à Fox par l'ami qui, par amour, se porta volontaire pour prendre sa place. Un Frénorton à George Fox 1656 Cher George Fox, toi, dont la beauté et la grâce dans les paroles ne peuvent être exprimées. Je suis poussé à t'écrire ceci et à me livrer librement par l'amour de la semence, et l'amour de la semence qui repose sur toi me conduit à placer devant toi ce message. Le 17 du mois dernier, j'avais été dans l'attente du Seigneur. Dans ma vie, tu es apparu. Depuis lors, il m'a pesé de faire quelque chose qui te touche, et maintenant mon attrait me porte vers ce lieu où je suis à présent. Puisque tu es prisonnier d'Olivier, il m'est maintenant demandé de lui offrir mon corps pour ton corps en prison, et je suis préparé à le faire, quand bien même cela pourrait conduire à mon sang. Si tu reçois mon offre dans cette lettre, veille à ce que cette offre demeure avec sagesse, et fais-moi savoir le montant de tes souffrances injustes et de l'amende pécuniaire, afin que je le lui présente de sorte qu'il n'ait aucune excuse, et que je sois dégagé de ce qui m'est demandé. Tu es cher et choisi, fais-moi parvenir de tes nouvelles, car je vois le grand besoin que tu as d'être libre. Je fus l'un des premiers à être à Swarthmore, et dans ces réunions il y avait beaucoup de prises de parole et de prières, et un chant tel que je n'en ai jamais entendu, et aussi l'illumination parmi eux que j'ai vue et ressentie. Je sens la nécessité de porter cela devant toi et James Naylor, vous étant tous deux suffisants pour ces choses et leurs causes, et la divergence à Kendall et à son sujet. Le besoin de votre manifestation envers Israël repose sur moi. Jusqu'à ce que j'aie de tes nouvelles, moi qui, avec des paroles sans feinte, suis prêt à déposer ma vie pour ce que je suis, un Frénorton, dans la volonté du Père, et par sa puissance, prêt à faire ce qui est mentionné ci-dessus. Londres, ce 4 jour du 2 mois 1656, au cours de ses voyages en Irlande, il visita les provinces de Leinster, Munster et Connaught, et comme la plupart des premiers ministres de la société, il y éprouva la main persécutrice d'une hiérarchie jalouse et intolérante. À Galway, il fut arraché violemment d'une réunion par une garde de soldats et chassé de la ville. À Wexford, alors qu'il se trouvait à une réunion paisible, il fut de nouveau saisi par les soldats, conduit à l'église, et là emprisonné jusqu'aux prochaines assises. Son retour d'Irlande eut lieu au début de 1657. Au quatrième mois, comme cela a déjà été rapporté, il s'embarqua à bord du Woe-Douze pour la Nouvelle-Angleterre. Les cruautés révoltantes qu'il endura dans ce pays en poursuivant ses travaux évangéliques n'ont pas besoin d'être répétées. De Nouvelle-Angleterre, un Frénorton poursuivit sa route pour visiter certaines des colonies anglaises plus méridionales. En 1660, il était de nouveau à Rhode Island, et chose singulière, après cette date, on ne trouve plus aucune mention de lui. Christopher Rolde, avant sa visite en Nouvelle-Angleterre en 1656, Christopher Rolde résidait à Winterbourne, dans le Gloucestershire. Il est mentionné comme un homme bien éduqué, un homme de bon avoir, et il fut de ceux qui, dans le sud-ouest de l'Angleterre, se joignirent très tôt aux Quakers. Voici la première mention que l'on trouve de lui. Christopher Rolde, en l'année 1655, fut envoyé à la prison d'Ilchester pour avoir parlé au prêtre à l'église de Keynsham, et de là, après un certain temps, ayant été conduit à la session suivante, il fut relâché. Appelé par le grand chef de l'Église à plaider sa sainte cause parmi les hommes, en 1656, il crut qu'il lui était demandé de visiter la Nouvelle-Angleterre, visite qu'il renouvela en 1657, avec la petite bande de messagers de l'Évangile qui appareilla pour ce pays. Ses engagements religieux s'y poursuivirent jusqu'à la fin de 1657, lorsqu'il entreprit une visite à quelques îles des Indes occidentales. Son absence de l'Amérique du Nord fut toutefois brève, car dans une lettre reçue par George Fox de la Barbade, il est mentionné comme ayant quitté cette île au deuxième mois 1658 pour les Bermudes et Rhode Island. Il atteignit ce dernier lieu, comme nous l'avons déjà dit, au quatrième mois de cette année. Après sa libération de la prison de Boston au huitième mois 1658, Il se dirigea vers le sud et s'unit à William Robinson et Robert Hodgson, pendant quelque temps, dans des travaux évangéliques en Virginie, puis revint à Rhode Island au début de 1659. William Robinson, qui fut peu après emprisonné à Boston, mentionne avoir reçu au cinquième mois une lettre de Christopher Old, qui, dit-il, était en service dans une ville appelée Salem la semaine dernière et a eu un beau service parmi les amis dans ces régions. Peu de temps après, Christopher Old devint codétenu de William Robinson à Boston, s'y étant rendu pour chercher un navire à destination de l'Angleterre. Après un emprisonnement de 2 mois, il fut libéré et, prenant passage sur un navire prêt à appareiller pour la Grande-Bretagne, il rentra chez lui sain et sauf. Quelques mois après son retour en Angleterre, il fut uni par mariage à Mary Scott, mentionnée dans le registre comme étant de Boston, en Nouvelle-Angleterre, et le mariage fut célébré à Olveston, près de Bristol, au sixième mois 1660. Mary Scott était la fille de Richard et Catherine Scott de Providence. Christopher Old visita l'Amérique à plusieurs reprises, et il échut à ce fidèle ministre, tout en voyageant dans des pays lointains, d'endurer une grande somme de souffrances et d'épreuves pour la cause de son grand maître. À son retour d'Amérique, il souffrit également sévèrement pour son témoignage à la vérité. Au troisième mois, 1682, il fut de nouveau incarcéré à la prison d'Ilchester pour avoir refusé de prêter serment. Après 2 mois, il fut frappé de prémonition et demeura prisonnier pendant plus de 4 ans et demi, jusqu'au douzième mois 1685, lorsqu'il fut relâché avec un grand nombre d'amis dans différentes parties du pays, en vertu de la libération générale accordée par Jacques Yee. Il mourut environ 2 ans plus tard. Dans le registre des sépultures, sa mort est ainsi consignée. Christopher Old de Pugdimore, dans le comté de Somerset, mourut à Hircott, dans la paroisse d'Olmondsbury, le 13 du 4e mois 1688, et fut enterré à Raisel. Ayant été décrit comme un jeune homme lors de sa première visite en Nouvelle-Angleterre, son âge ne devait probablement pas dépasser 60 ans. Il fut ministre pendant environ 33 ans, et à son sujet, nous n'en doutons pas, la parole du psalmiste peut être appliquée à juste titre. Observe l'homme intègre et considère l'homme droit, car la fin de cet homme est la paix. John Copland, le récit de la visite des 8 amis en Nouvelle-Angleterre à l'été 1656, contient la première référence qui semble concerner John Copland. Comme son cher compagnon, Christopher Old, il était alors jeune et non marié. Il est aussi dit qu'il était bien éduqué. Il semble avoir résidé dans le Holderness, dans le Yorkshire, et l'on peut supposer qu'il y fit tôt la connaissance de Robert Fowley de Bridlington Quay, dans ce comté, compagnon de labeur dans l'Évangile, et dans le petit navire duquel il visita de nouveau l'Amérique en 1657. Combien de temps John Copland fut absent de son pays natal pendant cette visite, il est difficile de le déterminer, mais dans la seconde partie de 1658, il était à Sandwich en compagnie de Josiah Cole, lorsqu'ils furent violemment enlevés d'une maison d'amis et conduits en prison. En 1661, nous le rencontrons à Londres, et en 1667, il se maria. Dans le registre de son mariage, il est décrit comme étant de Lockington, North Cave, dans le comté de York. Sa femme étant morte environ 8 ans après leur union, il se remaria en 1677. 10 ans plus tard, nous le retrouvons de nouveau en Amérique. Dans une lettre adressée à George Fox depuis ce pays, il est mentionné comme se trouvant en Virginie. Après son retour de cette visite, il entra, en 1691, pour la 3e fois dans l'Alliance du mariage. Il plut à celui qui tient le souffle de tout être vivant d'accorder à ce cher ami la longueur des jours, et ayant survécu à sa première visite en Amérique du Nord de plus de 60 ans, il eut raison de se réjouir que la cause pour laquelle il avait travaillé et souffert s'était largement répandue parmi les colons de ce pays. Il mourut le 9 du 1er mois 1718 et fut enterré à North Cave. John Roux. John Roux était le fils de Thomas Roux, riche planteur de sucre de la Barbade, et le père comme le fils furent parmi les premiers membres de notre société religieuse sur cette île. Au moment de la visite de John Roux en Nouvelle-Angleterre, il était manifestement encore un jeune homme. Après sa libération de la prison de Boston, au 8e mois 1658, hormis une visite qu'il fit à l'île de Nevis vers la fin de cette année, nous perdons toute trace de lui jusqu'à son mariage avec Margaret, la fille aînée du juge Fell, qui fut célébrée à Swarthmore Hall au 1er mois 1662. À son mariage, John Roux s'établit à Londres, où, ainsi que dans ses environs, il semble avoir résidé pendant le reste de sa vie. Peu de détails de la vie de John Roux ont été conservés, et à l'exception d'une visite dans le comté de Kent en 1670, accompagné d'Alexander Pock et George Whitehead, à la Barbade l'année suivante avec George Fox, et au comté de York et Durham en 1689, nous ne savons rien de ses travaux évangéliques après son établissement en Angleterre. Dans son testament, daté de Kingston dans le comté de Surrey, octobre 1692, il se décrit comme marchand, et ses biens, qui semblent avoir été considérables, se trouvaient principalement à la Barbade. Il est singulier qu'aucune mention de sa mort n'ait été retrouvée, mais son testament ayant été homologué en 1695, il est probable qu'elle eut lieu cette année-là. Thomas Harry. Les détails donnés sur la visite de Thomas Harry en Nouvelle-Angleterre constituent à peu près tout ce que nous savons de son histoire. Comme il est mentionné comme étant de la Barbade, il dut être l'un des tout premiers à adopter, sur cette île, les vues de notre société religieuse. Robert Fowley. Les notices biographiques des premiers ministres de la société, qui contribuèrent à l'introduction et à la diffusion de ses principes en Nouvelle-Angleterre, peuvent être opportunément suivies de quelques remarques sur Robert Fowley, maître et propriétaire du voilier Wau 12. Il habitait à Bridlington Quay dans le Yorkshire et exerçait le métier de marin. Un document consigné dans un ancien livre de procès-verbaux de la réunion mensuelle de Holderness, intitulé « Un mémorial de la première manifestation de la vérité dans les parties orientales du Yorkshire, pour la considération de la postérité », indique que Robert Fowley, avec beaucoup d'autres, reçut avec joie la parole de vie en l'année 1652. Une grande crainte, une grande appréhension et la puissance du Seigneur agir puissamment en nous, et firent plier l'homme fort en nous, et trembler les gardiens de la maison. Et ceux qui étaient patients et demeuraient dans la lumière et la puissance de Dieu augmentèrent dans leur foi, et s'aimèrent ardemment d'un cœur pur, de sorte que rien ne manquait à quiconque. Car le renoncement à soi, la vraie simplicité de l'Évangile, et l'amour qui ne pense aucun mal, furent nourris parmi nous, et les ruses de Satan furent mises au jour, et une voie pour échapper à ses pièges fut aperçue dans la lumière. Car le Seigneur nous oignit de son Saint-Esprit, et cela nous conduisit dans la vérité et la justice, et certains furent rendus aptes à travailler dans sa vigne, au Seigneur soit toute la louange et la gloire, car elles lui sont dues, à travers tous les âges et toutes les générations. En 1656, tandis qu'il construisait son petit navire, il fut fortement impressionné de la conviction qu'il serait requis pour quelques services particuliers au progrès de la cause de la vérité, impression qui, comme nous l'avons vu, se réalisa de façon remarquable. C'est à l'été 1657 qu'il débarqua ses amis dévoués sur les côtes de l'Amérique du Nord et, comme l'année suivante nous le trouvons, pendant quelques semaines prisonnier au secret dans le Lincolnshire, pour avoir exhorté une assemblée dans l'un des lieux de culte nationaux, nous pouvons conclure qu'il revint de ce pays sans grand retard. La première mention de l'exercice de son don dans le ministère date de 1658. Il y a néanmoins de bonnes raisons de croire qu'il était, depuis plusieurs années auparavant, engagé dans cette importante œuvre. Au 11e mois 1660, alors qu'il était assemblé avec ses amis à Bridlington Quay pour le but solennel du culte, il fut saisi et emmené au château de York pour avoir refusé de prêter le serment d'allégeance, piège dont les ennemis de la société faisaient alors grand usage et par lequel des milliers de ses membres furent soumis à l'emprisonnement. Un moment en 1660, pas moins de 4230 amis furent enfermés dans les prisons et châteaux du royaume. Son emprisonnement, en cette occasion, dura environ 2 mois. L'année suivant son incarcération au château de York, nous constatons qu'il fut violemment enlevé d'une réunion à South Shield et détenu pendant 4 semaines dans l'un des trous lugubres du château de Tynemouth. Robert Fowley, semble-t-il, eut 6 enfants, dont le plus jeune naquit en 1665, et après cette date nous ne parvenons plus à retracer les événements de sa course chrétienne. La mention suivante, écrite par George Fox au dos d'une lettre qu'il reçut de Robert Fowley, mais qui est sans date, contient les seuls faits restants que nous ayons pu recueillir à son sujet, Robert Fowley, qui allait souvent aux églises pour déclarer la vérité, et qui était capitaine d'un navire, et mourut dans la vérité, et fut souvent emprisonné pour elle. La plénitude du bref témoignage de George Fox n'appelle aucun commentaire, il mourut dans la vérité, la date de son décès n'a pas été déterminée. Suite des premiers Quakers américains, le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.